Violette songeait parfois à celle qu'elle était à sa descente du train à Montréal en 1936. Elle avait peur de tout et de tous. Elle portait des bottes trop grandes et un manteau usé jusqu'à la corde hérité de son grand-père. Elle avait tellement honte de son allure. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit qu'on puisse la trouver belle. Ce n'était qu'après son arrivée à Montréal qu'on lui avait dit pour la première fois qu'elle était jolie. Elle savait qu'aux yeux de certains, la nature est pleine de charme, mais pour elle, il n'y avait pas de plus beau spectacle que la ville. Elle en aimait tous les détails. Au-dessus de la porte de la taverne était perchée une gargouille à tête de cochon qui lui souriait chaque fois qu'elle passait par là. Sur le toit de l'église, une Vierge Marie nimbée d'un halo d'étoiles d'acier semblait réprimer un bâillement. La ville possédait une absurdité dont la nature était dépourvue. Elle travaillait comme serveuse quand elle avait fait la connaissance de Frank. Ils avaient tous les deux les yeux de la même teinte de bleu. Il avait glissé la main dans sa poche et en avait sorti un collier de perles qu'il avait laissé tomber dans sa tasse de thé en guise de pourboire. Ils étaient ensemble depuis ce moment-là et vivaient dans une minuscule chambre d'hôtel de la rue Sainte-Catherine. Le papier peint était d'un merveilleux bleu céruléen. Alors c'était toujours l'été entre ces murs. L'édredon était couvert de roses dorées et le matelas soupirait sous le poids des fantômes de tous les amoureux qui l'avaient partagé avant eux. Les fenêtres fissurées donnaient sur la rue bordée de boîtes de nuit. Quand ils étaient nus, leur corps changeait de couleur au gré des lampes des marquises. Ensemble, ils dévalisaient des banques. Violette allait repérer les lieux une semaine avant pour dresser un plan détaillé. Une femme en train de fouiner n'éveillait jamais les soupçons. Elle avait un visage qui transpirait l'innocence. Et plus elle commettait de crimes, plus elle avait l'air innocente. Ses joues rosissaient, ses yeux souriants devenaient d'un bleu plus pâle, elle marchait d'un pas sautillant. Pendant le cambriolage, elle faisait semblant d'être une cliente comme les autres, et Frank la prenait en otage. Elle était capable de supplier, de sangloter et de trembler violemment de tout son corps. Frank disait qu'il était parfois tellement convaincu par son numéro qu'il lui arrivait de craindre pendant un moment d'avoir empoigné la mauvaise femme. Après, ils en hurlaient de rire en buvant du vin à moitié dévêtus sur le lit de leur chambre d'hôtel. Quand Frank et Violette allèrent pour la première fois en boîte de nuit, la chanteuse sur la scène avait les cheveux lissés sur le côté et portait une robe blanche faite de rubans de soie. Elle avait la voix épaisse et veloutée comme du sirop. Il n'était pas explicitement question de sexe dans sa chanson, mais elle avait une façon tellement suggestive de susurrer qu'elle restait au lit pour regarder la lune, que Violette sentit naître un puissant désir en elle. Après cela, Frank et elle firent le tour de tous les clubs de la rue Sainte-Catherine. Ils dépensaient sans compter pour s'offrir des martinis et des mets coûteux et puis s'accrochaient l'un à l'autre en rentrant ivre. L'univers fourmillait des constellations des différents théâtres, restaurants et cabarets. Ils passaient des après-midi entiers au cinéma. Entre les projections, on présentait des numéros de variété. Un chimpanzé en smoking apparaissait, fumant une cigarette et les faisait éclater de rire. Rien dans le film des nouvelles ne laissait deviner que la vie serait jamais autre chose que plaisir et opulence. Ils resteraient des enfants gâtés jusqu'au jour de leur mort, obtenant tout ce que leur cœur désirait. Ils avaient depuis longtemps l'intention de trouver un logis plus grand que la chambre d'hôtel, mais l'argent leur filait entre les doigts. Un matin, Violette entra chez le marchand du coin vêtue d'une robe à 30 $ dont le prix était encore fixé à l'ourlet. Elle valsa paresseusement dans les allées tandis que les autres clients, en vêtements de travail, s'apprêtaient à commencer leur journée. Ils la trouvèrent belle et charmante, mais ne l'envièrent pas, car ils savaient que l'existence qu'elle menait ne pouvait pas durer. Être cambrioleur, c'est une suspension consentie de l'incrédulité, et tôt ou tard, la réalité du monde finit par vous réveiller. Frank et Violette étaient au musée un dimanche quand elle montra du doigt dans le portrait d'une aristocrate française une paire d'escarpins colorés. Elle trouvait ses chaussures si jolies, brodées de fleurs rouges et mauves. Elles avaient des talons dorés. Frank lui en fit confectionner une paire identique. Il voulait lui offrir des choses que personne d'autre ne pouvait lui donner, faites spécialement pour elle. Il les décrivit au cordonnier et lui commanda d'en laisser le bout ouvert, de sorte qu'on puisse apercevoir les jolis ongles vernis de Violette. Le cordonnier les recouvrit d'un brocart de soie colorée dont les fleurs faisaient penser à des étoiles rayonnantes. C'étaient d'adorables escarpins de danse, mais Violette les portait tous les jours, qu'elle dansât ou non. Lors du cambriolage suivant, tandis que Frank la traînait hors de la banque, l'une des chaussures de Violette glissa et fut laissée dans les marches. En prenant le joli escarpin, le détective se dit qu'une visite chez les cordonniers du centre-ville l'aiderait à éclaircir le mystère de celle qui avait ainsi trouvé chaussure à son pied.